Laurent Joly, bonsoir.
Bonsoir Pierre Gondus.
Laurent Joly, vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup écrit sur Vichy, sur les Juifs, sur l'extrême droite. Votre dernier ouvrage, La falsification de l'histoire aux éditions Grasset, a comme sous-titre ou surtitre, c'est au choix, sur la couverture, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Et dans cet ouvrage de 140 pages, eh bien, vous avez voulu démonter les différents, je dirais, arguments historiques d'Éric Zemmour, notamment sur Vichy, notamment sur Pétain, notamment sur le général de Gaulle, sur Vichy qui a protégé les Juifs français. Alors, c'est un ouvrage salutaire parce que quand on écoute Éric Zemmour, ben, on a l'impression que l'historien, c'est lui et que tout ce qui a été démontré, prouvé par des thèses, par des historiens connus, moins connus, on a l'impression que tout ça n'existe plus.
Oui, c'est pour ça qu'il m'a semblé important de repartir justement de comment on avait écrit cette histoire de Vichy et de l'extermination des Juifs, parce que c'est une histoire qui s'est écrite très tôt, à partir d'archives, dès les années 40, dès la fin des années 40, le Centre de documentation juive contemporaine, qui est aujourd'hui le Mémorial de la Shoah, a des archives. Et là, il y a les archives du Commissariat général aux questions juives, il y a les archives du service d'affaires juives de la Gestapo. Et vous avez des chercheurs, qui vont devenir des grands chercheurs, Léon Poliakov, Joseph Bilic, Georges Vélers, qui vont travailler sur ces archives-là et qui vont commencer à produire un savoir scientifique qui va donner naissance à d'autres travaux. Paxton, au début des années 70, Serge Klarsfeld, à la fin des années 70, au début des années 80. Donc c'est ce savoir scientifique-là qui s'est construit dans le temps et dont Éric Zemmour, on a l'impression qu'il ne le connaît absolument pas. Il fait comme s'il n'existait pas et comme s'il y avait eu tout d'un coup un méchant américain, Robert Paxton, qui est arrivé et qui est venu nous culpabiliser sur notre histoire de France. Tout ça, c'est un mythe, c'est faux. Et donc j'ai voulu vraiment, c'est le cœur du livre, raconter cette histoire de l'histoire qui me paraît le meilleur moyen pour mettre à jour la dimension de falsification des propos et des écrits d'Éric Zemmour sur ce sujet.
D'ailleurs, sur Robert Paxton, il parle de la doxa Paxton, hein, comme si il n'y avait que ce son de cloche qui était imposé au nom de l'histoire.
Absolument. Alors là aussi, c'est un mythe d'extrême droite qui est né dans les années 70. Alors au début, on ne parle pas de doxa, on parle de lobby Paxton. C'est Alfred Fabrelus, un écrivain d'extrême droite, qui sort cette formule à la fin des années 70, qui fait un petit livre qui est déjà annonciateur du zémorisme historique, c'est-à-dire qui fait un livre pour réhabiliter la politique antisémite de Vichy. Et voilà, je voulais vraiment montrer en quoi c'était un mythe. Si on montre ce que je fais, que 20 ans avant Paxton, vous avez déjà des chercheurs qui commencent en gros à dire les mêmes thèses que Paxton. Vous lisez Joseph Bilig, qui fait une somme extraordinaire sur l'histoire du commissariat général aux questions juives à la fin des années 50 et début des années 60. Vous avez déjà la thèse de Paxton, vous avez déjà l'explication de pourquoi il y a eu cette politique contre les juifs en France et pourquoi Vichy a si facilement livrer les Juifs apatrides en 1942, parce que tout simplement Vichy avait une politique antisémite et que Vichy menait une politique de collaboration. Tout ça est écrit dans des livres d'histoire dès les années 50.
Alors, on peut se poser légitimement la question, Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle, mais quel intérêt pour lui de revenir sur ces pans historiques ?
Alors maintenant qu'il est candidat à l'élection présidentielle, ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour lui. Je dirais que sur le plan immédiat, on voit qu'il est très gêné. J'écoutais ce matin son nouveau porte-parole, ou en tout cas l'un de ses porte-parole principaux, Guillaume Pelletier, qui est une recrue.
Récente en plus.
Des Républicains. Ouais. Intéressante en plus pour lui. C'était assez attendu. Si j'avais dû mettre une pièce sur quelqu'un, c'est sur lui que je l'aurais mise. Donc c'était assez attendu, Guillaume Pelletier. Il faisait partie de ceux dont on savait que probablement il pourrait rallier Zemmour. Vous savez qu'il vient de l'extrême droite. Donc bon, voilà, c'est un retour assez logique. Mais Guillaume Pelletier, c'est un prof d'histoire. C'est quelqu'un qui est gaulliste. Donc, il est gêné. Donc il dit, Zemmour, il reste sur la position gaulliste qui est de dire Vichy, les crimes de Vichy, ça n'a rien à voir. La France était à Londres. Alors ça, c'est un tour de passe-passe, parce que ce que dit Zemmour dans ses livres et dans ses interventions publiques, c'est pas ça, c'est pas Vichy c'est pas la France, Vichy a trahi la France. Zemmour considère que Vichy n'a pas commis de crime. Donc il reprend la défense de Vichy, qu'il cherche en effet à concilier avec une position gaulliste, mais en fait c'est pas conciliable, les deux positions ne sont pas conciliables, on peut pas dire d'un côté Vichy n'a pas commis de crime, et de l'autre, la France n'a rien à voir avec ses crimes. Enfin, vous voyez, oui, on peut dire que la France n'a rien à voir avec ses crimes, mais dire dans le même temps que Vichy n'a pas commis de crime, c'est pas la même chose. Donc, il y a là un point de contradiction que Zemmour ne laisse pas, puisque Zemmour dit Vichy n'a pas commis de crime. Alors, pourquoi il fait ça à l'origine? Pourquoi il fait ça à l'origine? Je pense qu'à l'origine, Zemmour est dans un combat intellectuel. Zemmour, c'est quelqu'un qui voit loin, qui est dans une entreprise de contre-histoire, il veut proposer un autre récit. Il considère que ce qu'il y a dans les manuels scolaires, que l'histoire qu'on nous enseigne est une histoire qui nous apprend à détester notre pays. Donc il est convaincu de ça, Zemmour. Donc pour lui, réécrire l'histoire de Vichy, ça fait partie de cette volonté de réécrire globalement l'histoire de France. Et donc il considère qu'on se culpabilise à tort et que Vichy, la France, n'a rien à se reprocher pour ce qui est arrivé aux Juifs en France pendant la guerre. Donc ça, c'est vraiment une position importante chez Zemmour, mais qui a aussi une visée politique. Je pense que pour Éric Zemmour, il y a vraiment, depuis longtemps, la volonté de réconcilier la droite gaulliste, la droite de gouvernement et l'extrême droite. On sait que depuis 40 ans, il y a ce cordon sanitaire, ce verrou qu'avait posé Chirac de manière très, très ferme. Et Zemmour veut lever ce verrou, il l'annonce, il le dit. Il ne doit pas y avoir d'opposition entre les deux, c'est la droite nationale, voilà, doit s'unir. Et réécrire l'histoire des années noires permet d'unir ces deux droites. Ça aussi, c'est une vieille tactique de l'extrême droite qui remonte aux années 40-50. L'avocat de Pétain, Maître Izorni, je le raconte dans mon livre, avait créé dans les années 50 un parti qui s'appelait l'Unir et qui voulait vraiment imposer cette idée du glaive et du bouclier. Le glaive Pétain de Gaulle, le bouclier Pétain. Donc vous voyez qu'on est là dans une vieille tradition d'extrême droite que Zemmour remet à neuf.
Et puis, et vous le rappelez dans votre ouvrage, il va même plus loin. Il dit que les propos de Jacques Chirac en 1995, reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, ça c'est un crime. La rafle du Veldiv et les déportations, pour lui, c'est assez accessoire, pour ne pas dire un détail, pour reprendre une formule connue. Mais ce qui est criminel, c'est les propos de Jacques Chirac.
Oui, absolument, faites bien de le relever, parce que je trouve que c'est pas assez relevé. On a tous réagi, pas moi pas, mais les médias, les hommes, les politiques ont réagi quand Zemmour a réaffirmé que la politique de Vichy avait consisté à sauver les Juifs français, quitte à sacrifier les Juifs étrangers, mais on a peu relevé les propos contre Jacques Chirac, qui sont effectivement très graves, et qui sont étonnants pour quelqu'un qui prétend incarner le RPR des années 80-90, le RPR qui est le parti fondé par Jacques Chirac. Donc, à la fois, Zemmour veut préempter l'histoire du RPR, dire voilà, c'est moi le RPR, le vrai RPR, le RPR authentique, et Jacques Chirac est un traître. C'est comme ça que Zemmour présente les choses. Jacques Chirac a trahi l'héritage gaulliste en reconnaissant la responsabilité de la France, de l'État français plutôt, dans la déportation des Juifs de France. Il considère effectivement que c'est criminel, parce qu'on est dans la logique de Zemmour, c'est ce que Zemmour écrit, le suicide français, c'est pas une interprétation que je fais, il considère qu'en fait de tels propos nous culpabilisent et nous empêchent notamment la droite, de prendre des mesures drastiques contre les étrangers, et donc nous soumet à l'invasion migratoire et islamique. Donc vous voyez qu'on est là face à un raisonnement qui est véritablement paranoïaque et contre-historique.
L'histoire politique française a connu des hommes un peu comme Zemmour. Il y a eu Boulanger, il y a eu Poujade. Est-ce qu'il s'inscrit dans cette ligne-là?
Oui, c'est ce que j'explique au début de mon livre. Je pense que il y a une crise, on connaît une crise zémourienne de la Ve République. On a un acteur qui rebat complètement les cartes du jeu politique et nous rend un peu tous fous. C'est-à-dire qu'on voit que c'est lui qui dicte le calendrier, le monde politique est comme pris en otage par un personnage qui surgit comme ça à l'improviste, qui n'est pas un homme politique de formation et qui bouleverse un peu les cartes, comme l'avait fait Poujade dans les années 50. Alors Poujade, pour resituer pour ceux qui auraient oublié ce que c'était ce papetier qui avait fondé un mouvement politique qui est vraiment le premier populisme français au sens où on l'entend aujourd'hui, qui avait eu des députés dans les années 50, qui avaient perturbé le jeu politique. Jean-Marie Le Pen avait été l'un de ces députés poujadistes en 1956. Ce mouvement de contestation de la République en place, très populiste, très cocardier, s'est effondré. On a eu le boulangisme aussi, qui a été un mouvement à la fin des années 1880, au début des années 1990, incarné par un général qui avait été ministre. Donc lui venait du jeu intérieur politique, mais l'avait complètement retourné en faisant une campagne autour de lui, déjà populiste, très moderne, et il aspirait à prendre le pouvoir avec le soutien des royalistes, avec le soutien de l'extrême droite, tout en camouflant son identité politique. Ça rappelle un peu Zemmour, parce que Zemmour camoufle un petit peu son identité politique. Bon, c'est un camouflage pas très réussi, parce qu'on voit très bien, quand on regarde un peu les réseaux de Zemmour, qu'il est d'extrême droite. Mais Zemmour va se présenter un peu comme Boulanger, un peu comme Poujade, comme l'homme de la nation. Vous voyez ce type de posture-là, ouais. Je suis l'homme de la nation, contre les politicards, contre les politiciens pourris, et moi j'incarne vraiment les intérêts du peuple contre les élites dévoyées. Ce type de discours rappelle vraiment celui de Poujade et du général Boulanger, mais vous voyez que c'est une vieille tradition.
Oui, et puis moi j'ai noté une chose, de temps en temps, à la fin, ou en tout cas quand il a présenté ses vœux aux Français, il a dit « Vive la République, mais surtout vive la France ». Alors ça aussi c'est important dans ce discours d'extrême droite, la France est plus importante que la République. Hein.
Exactement, ça me rappelle les déclarations que faisait Xavier Vallat, qui est un homme politique de la Troisième République, auquel j'ai consacré mon premier livre il y a plus de 20 ans. Xavier Vallat, c'est un homme qui était d'extrême droite, mais qui s'est intégré dans la droite classique. Et donc, pour s'intégrer dans la droite classique, il fallait bien qu'il dise « Vive la République », mais c'était toujours un petit « Vive la République », et il y avait un grand « Vive la France ».
Laurent Joly, vous qui êtes historien, c'est quand même assez, je dirais, paradoxal, pour ne pas dire symptomatique, de voir aujourd'hui que l'extrême droite est représentée par Éric Zemmour, qui se définit lui-même comme juif berbère. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, là, dans cette description ?
Non, moi, c'est vrai que je ne considère pas le fait que Zemmour soit juif, personnellement, n'est pas un élément important. Parce que je le resitue, si vous voulez, dans une tradition d'extrême droite qui a finalement toujours accepté des juifs qui tenaient un discours national fort. Vous savez, Georges Mandel, oui, a été soutenu par l'Action française au début des années 20. Bon, alors après, évidemment, quand Georges Mandel est favorable à une position ferme face à l'Allemagne nazie, qu'il est donc partisan d'une guerre contre l'Allemagne nazie, ça devient le sale juif, mais le Mandel patriote du début des années 20 est soutenu par Maurras, par Daudet, ça paraît tout à fait étonnant. Mais l'extrême droite française a une dimension ethnique, si vous voulez, mais avant tout culturelle et politique. Et donc un juif qui défend complètement la France peut être soutenu par l'extrême droite, et même aujourd'hui peut être. Il est évidemment inenvisageable qu'un juif soit porte-parole de l'extrême droite dans les années 30, dans les années 50, mais dans les années 2020, aujourd'hui, c'est possible. Voilà, ça fait partie de cette évolution où finalement, et on le voit dès les années 60, où il y a vraiment un renversement qui se produit dans l'extrême droite, où le vrai danger devient l'arabe, devient le musulman. Et on voit un Xavier Vallat, ancien commissaire général aux questions juives, qui en 1967 va soutenir Israël contre les Arabes. Vous voyez, donc c'est pas une aberration quand on replace Zemmour dans notre tradition et dans notre histoire politique depuis un siècle.
On évoquait tout à l'heure Poujade et Boulanger. Leur parti a disparu hein, du jour au lendemain. Ils ont eu un petit succès. Et puis, voilà, ça fait partie de l'histoire politique française. Mais est-ce que on peut imaginer le même sort pour le mouvement, le courant que Éric Zemmour draine derrière lui?
Je ne crois pas, je suis pas devin, donc je suis historien, donc je peux pas. Mais je ne crois pas parce que...
Qu'est-ce qui change par rapport à...
Ce qui change, c'est que la différence entre Zemmour et Poujade et Boulanger, entre ces, on va dire, ces fièvres nationales que nous avons connues, c'est qu'elles étaient incarnées par des gens qui étaient uniquement des populistes, si vous voulez, qui avaient pas de bagage intellectuel, pas de bagage politique, qui étaient des acteurs d'un moment. Et ça s'effondrait parce qu'eux-mêmes, il n'y avait rien derrière. Zemmour, il y a quelque chose derrière. Il y a une idéologie, il y a une doctrine qui est là quand même depuis une quinzaine d'années, petit à petit, qui s'est imposée. Et même s'il a peu de chance d'être président de la République, il a quand même un rôle de maître à penser pour l'extrême droite française qui va peut-être pas disparaître comme ça. Voilà. Mmh. Donc, on est dans une séquence qui est, à mon avis, de moyen terme. Ça va pas retomber comme ça.
Alors, vous n'êtes pas un commentateur politique, mais vous êtes un historien. Face à Zemmour, comment vous voyez les réactions des politiques? Est-ce que historiquement, il y a eu cette même frilosité, parce que beaucoup sont montés au créneau, mais parmi les politiques, il n'y a pas eu réellement de véritable confrontation avec Zemmour, si ce n'est souvent des invectives. Comment vous voyez ce jeu entre, je dirais, la politique traditionnelle et les hommes et les femmes politiques, et puis Éric Zemmour?
Ce que j'observe, c'est que c'est très difficile pour les acteurs politiques traditionnels de se confronter à Zemmour, parce que Zemmour gagne un peu sur tous les tableaux. Donc il se présente à la fois comme vierge d'un point de vue politique. Voilà, moi je ne suis pas un politicien professionnel et donc il renvoie tous les hommes politiques, il les met un peu tous dans le même sac. Et là il joue une carte qui est assez habile de rejet de la politique par une grande partie des Français, des Françaises qui en ont un peu marre, voilà. Donc, et en même temps, c'est un professionnel du débat, de la discussion politique. Donc, il peut trouver n'importe quel argument. C'est un homme de la mauvaise foi. Et le livre que j'ai fait, moi, vise à montrer que Zemmour, en fait, est un menteur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mentir. Hein, qui n'hésite pas à mentir. Et tout le temps, en permanence, sur tous les sujets. Et donc, que faire? Alors, va faire du travail de fond. Mais quand on lui balance un mensonge, il vous faut... beaucoup de temps pour rectifier. Donc c'est difficile pour les femmes et les hommes politiques qui débattent avec lui. Ça ne va pas être facile dans ces débats, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de le confronter en permanence à ses mensonges. Je ne vois pas d'autre solution pour les politiques.
La falsification de l'histoire aux éditions Grasset, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Vous en êtes l'auteur, Laurent Joly. Merci d'avoir été notre invité sur Radio Shalom. Bonsoir.
Au revoir.